Et la rue de presse, c'est votre dossier. Frédéric Pommier, bonjour.
Bonjour Eric Delvaux, bonjour. Patricia Martin, bonjour à tous. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi la terre est ronde? Pourquoi la pluie ça mouille? Pourquoi les chats ça miaule? Pourquoi tu veux que je dorme alors que je suis pas fatigué? Les enfants posent souvent des questions auxquelles on a du mal à répondre. Et les adultes aussi peuvent être confrontés à des interrogations d'ordre existentiel. Pourquoi n'y a-t-il pas de synonyme au mot synonyme? Pourquoi Éric Zemmour? Pourquoi les chiens sont-ils aussi débordants d'affection chaque fois qu'ils viennent de patauger dans la boue? Et pourquoi les chansons sont-elles plus courtes qu'avant? Mais ici, on a la réponse à lire dans le journal du dimanche.
Donc c'est pas qu'une impression,
non,
ces chansons courtes.
Non, c'est une réalité. Il y a 20 ans, les chansons avaient une durée moyenne de 4 minutes 30 secondes. Aujourd'hui, la moyenne est descendue à 3 minutes 42. Près d'une minute perdue. Mais que s'est-il passé? Eh bien, le phénomène s'explique par le changement des conditions de rémunération des interprètes et des musiciens. Avec les CD, ils étaient payés à chaque vente de support physique. Mais avec le streaming, l'écoute de la musique sur des plateformes numériques, un nouveau mode de calcul est apparu. L'artiste n'est payé qu'au bout de 30 secondes d'écoute et le morceau aura beau s'étirer, la rétribution sera la même. Ces derniers temps, le streaming ne cesse de progresser, tandis que s'effondrent les ventes de CD et les compositeurs se sont donc adaptés, multipliant les morceaux courts, plus de matière à écouter, donc plus de revenus potentiels. Les longues introductions ont même été abandonnées, les refrains arrivent plus tôt. Objectif, accrocher l'auditeur dès le début pour s'assurer qu'il restera au moins jusqu'à la barre fatidique des 30 secondes. Pourquoi les chansons sont plus courtes? Parce que ça rapporte davantage. Dorénavant, même les artistes ne peuvent plus prendre leur temps.
Et c'est l'époque, hein, Frédéric. Tout va toujours plus vite.
Oui, c'est vrai, mais on peut aussi résister à l'époque. Choisir donc de prendre son temps. En se plongeant par exemple dans des revues qui offrent des récits au long cours. La revue dessinée, son numéro d'été passionnant comme toujours, notamment le reportage de Catherine Le Gall et Thierry Chavan qui se sont rendus au Guilvinec, premier port de pêche français, aujourd'hui soumis à une équation aussi inextricable qu'un nœud marin, tenté de préserver la biodiversité tout en continuant à vivre de son métier. Le sort des 20 000 marins pêcheurs français ressemble à s'y méprendre à celui des agriculteurs. Comme eux, ils ont vu leur profession s'industrialiser. Comme eux, ils sont pris dans les mailles d'un filet tissé sur mesure par la grande distribution qui casse les prix. Comme eux, ils se sentent les boucs émissaires d'une crise écologique qu'ils subissent de plein fouet. On peut également s'immerger dans la lecture du deuxième numéro de la revue Zadig. Un hymne à la nature avec des écrivains qui nous racontent leur territoire et leurs chemins intimes. La terre du Médoc avec Catherine Poulain. Nice, la ville de son enfance par Véronique Olmy, tandis que Lola Lafont peint le portrait de sa famille immigrée à Paris. Et puis il y a la Bretagne, l'Auvergne, le Queyras et les sommets alpins, les régions qui ont marqué la vie de Michel Serres, mort au début du mois. En haute mer, c'est l'eau et le vent qui commandent. En haute montagne, vous apprenez l'humilité, nous dit le philosophe. Dans cette longue et douce conversation avec Éric Fotorino, la douceur parfois tient au temps passé à converser. Prenez le vôtre pour lire cette conversation.
On me dit qu'il y a deux membres du gouvernement dans la presse dominicale.
Frédéric. Là, bien sûr, c'est un autre rythme, mais en politique également, il faut parfois savoir donner du temps au temps. Dans le journal du dimanche, c'est Agnès Buzyn. La ministre de la Santé entretient à propos de ce que l'Hebdo appelle la loi qui va révolutionner la famille. Le JDD dévoile le texte en cours d'examen au Conseil d'État. Ce projet de réforme sur la bioéthique qui étend la procréation médicalement assistée à toutes les femmes et autorise la congélation des ovocytes. La ministre souhaite notamment, je cite, « lever le voile sur la filiation pour les enfants nés grâce à un donneur ». Afin qu'ils accèdent à des informations sur celui-ci à leur majorité. Elle indique par ailleurs que la PMA sera remboursée pour tous et estime qu'aujourd'hui la société est prête. De nombreuses études scientifiques, dit-elle, montrent que les enfants élevés par des couples homoparentaux sont aussi heureux que les autres. Lire aussi à ce propos la revue Sciences Humaines, couple parent tribu, que devient la famille, et dans son édito, Jean-François Dortier nous appelle à nous souvenir de ceux qu'on nommait les enfants du divorce il y a 50 ans. Ils passaient, disait-on, pour des enfants à risque, des graines de délinquants, fausses idées. Et il faut, dit-il, repenser le modèle traditionnel de la famille.
Et dans le Parisien, dimanche ce matin, propos de Marlène Schiappa.
La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, souvent décriée quand elle prend la parole, trop bavarde, trop médiatique. Sa photo pleine page à la une avec cette citation « Je veux défendre les femmes de chambre ». Améliorer les conditions de travail des employés qui assurent le nettoyage des hôtels comme des entreprises et des administrations, employés souvent étrangères, souvent en contrat précaire. mais qui commence à se faire entendre. Plusieurs mouvements de grève sont en cours dans le pays, notamment à Marseille. Femmes de chambre, femmes de ménage, mais surtout femmes de l'ombre, relève le quotidien. Dans le secteur de la propreté, majoritairement féminin, celles qui sont à la tâche, qui ont pour tâche de changer les draps, vider les corbeilles à papier, nettoyer les sanitaires, le font souvent loin des regards, des horaires décalés, tard le soir, tôt le matin. Ces femmes ne doivent plus être invisibles, assure la secrétaire d'État, précisant que son arrière-grand-mère était elle-même femme de ménage et que ses conditions de travail extrêmement difficiles ne semblent pas très éloignées de celles qui existent aujourd'hui. Dans les prochaines semaines, elle recevra les fédérations d'entreprises de propreté et en septembre confiera une mission sur le sujet au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. Ces femmes, les politiques les ont toujours négligées, note Frédéric Vézard dans l'édito du journal. Parce qu'elle veut réparer cet oubli, Marlène Schiappa mérite le respect, dit-il, à condition bien sûr qu'elle réussisse à transformer ses généreuses intentions en changement réel, conclut mon confrère.
Justement, l'époque est au changement et ça peut se lire aussi dans Le Monde.
Avec tout d'abord une enquête sur les névroses climatiques. De plus en plus de Français développent une angoisse croissante face à une fin du monde qu'ils estiment inéluctable. Et puis, plus joyeux, il est également question des kermesses, les fameuses fêtes d'école. En ce moment, c'est la saison et les fameux spectacles. Or, que constate-t-on ? Eh bien, que les parents passent leur temps à filmer leur progéniture. Ils les filment pour pouvoir éventuellement les regarder plus tard, mais sans vraiment profiter du moment présent. Et les gosses, que voient-ils quand ils dansent ? Eh bien, ils voient essentiellement des rangées de smartphones. Prenons le temps de regarder nos enfants.
D'ailleurs, regarde-t-on les films que plus tard que l'on fait
souvent, ça prend trop de place sur les téléphones, donc on les efface.
On les oublie avec les téléphones.
Ça prend trop de temps aussi à les regarder.
Trop de temps à les regarder. Merci Frédéric Pommier.